Je passe à notre second invité, David Desjardins. Merci d'avoir accepté.
Merci de m'avoir invité.
Donc, je vais passer assez vite sur le fait que tu as été d'abord assez brièvement chroniqueur à l'hebdomadaire Voir et beaucoup plus longuement rédacteur en chef du Voir, et que maintenant tu écris dans Le Devoir et dans l'actualité. D'ailleurs, on voit que t'es passé du Voir au Devoir. On ajoute un préfixe. Je me demande si justement si ce serait pas comme une particule, comme David de Desjardins.
C'est mon... C'est l'ennoblissement intellectuel. Ouais.
Malheureusement, après la conquête, la noblesse française s'en est retournée chez
elle. C'est le deuxième AP.
Et on en est retourné. Donc, ce qu'on a de mieux sur quoi on peut se replier, c'est la bourgeoisie.
Oui. Oui, de laquelle je suis issu de toute manière, donc...
Ben oui, ouais. Tu savais que j'allais en parler.
Oui,
donc...
j'étais prêt.
Donc, dans cet ouvrage, normalement, je devrais avoir le mien, mais j'ai le... En tout cas, au très beau titre, « Le cœur est une valeur mobilière », donc qui est un choix de chronique de David Desjardins. Il y a une chronique dont le titre est justement intitulé « La noblesse », on voit que j'ai de la suite dans les idées, où David révèle candidement qu'il est issu de la bourgeoisie. Mais il n'en dit pas beaucoup plus, sinon qu'il en est resté certaines valeurs, puisque, à quelque part, générationnellement parlant, un des derniers témoins d'une bourgeoisie québécoise en train de s'évanouir, avalée par la classe moyenne. Mais t'en parles pas plus que ça.
Ouais.
Je trouvais qu'il y avait vraiment... J'aurais le sens d'avoir un peu plus sur tes origines bourgeoises. Et puis, en lisant ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser au Demi-civilisé de Jean-Charles Harvé, un roman dans lequel le dit Harvé critique feu notre bourgeoisie québécoise.
Ouais.
Et donc, moi qui suis fils d'assembleur d'acier, je me demandais qu'est-ce que c'était, là, cette bourgeoisie québécoise-là? Qu'est-ce que ça peut être, là, de...
Ben, moi, je suis un fils de médecin, puis ma mère était dans une espèce de famille assez aisée, venait d'une famille assez aisée, puis d'une espèce de bourgeoisie anglophone de Québec aussi. Là, donc, ça, c'était un côté de la famille. L'autre côté, mon père, lui, venait de milieux plus modestes, mais évoluait dans ce milieu-là, qui est le milieu des médecins et des gens qui font beaucoup trop d'argent pour leur bien. Et
mais c'était pas un médecin.
Hein? Oui, il était médecin, il était hématologue. Et donc, c'est ça. Puis, j'avais l'impression de vivre dans ben, je parle d'une bourgeoisie, mais c'est une espèce de bourgeoisie bienveillante. C'est des gens qui faisaient beaucoup d'argent, mais qui avaient, en tout cas, je crois, éminemment le cœur à gauche en même temps. Bien, évidemment, c'est le temps des impôts. Tout le monde est à droite dans le temps des impôts. Mais... il y avait le cœur à gauche, ils croyaient beaucoup, ils avaient ces valeurs-là, donc ils défendaient. Ma mère, qui venait de ce milieu-là, très riche, était infirmière pour la Croix-Rouge pendant très longtemps, allait travailler à Manic, tout ça. Donc, je pense que c'est un monde qui est... Je parle de cette bourgeoisie-là avec une certaine affection, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que même si elle avait plein d'autres défauts, elle n'avait pas ceux de la classe moyenne d'aujourd'hui, et que... La classe moyenne d'aujourd'hui a comme avalé tout ça et est devenu cette espèce... Tout le monde est riche à crédit maintenant. Tout le monde est... et donc, c'est difficile de savoir qui est justement dans la vraie bourgeoisie et qui ne l'est pas. Ben non, il n'y en a plus parce que tu peux faire semblant que tu l'es, puis... grosse classe moyenne, puis tu peux avoir une voiture que tu n'es pas capable de te payer, une maison que tu n'es pas capable de te payer, donc vivre dans un quartier que tu n'es pas capable de te payer. Et donc, c'est ça. Moi, je viens du temps où on était capable, en voyant les autos du monde, de savoir combien ils gagnaient dans la vie, mais c'est fini ce temps-là.
Mais justement, vu qu'on parle de la classe moyenne, là, les plus pessimistes d'entre nous prédisent la disparition de la classe moyenne. Puis je me demande, est-ce à dire le retour de la petite bourgeoisie? Puis la question peut être ouverte aux deux.
Moi, mon expérience familiale, mon père n'a jamais gagné 5 000 dans une année. Donc, l'expérience que j'ai faite de la vie, j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir faire des études puis gagner bien ma vie. Et ce qui me désole, c'est que j'ai l'impression que pour nos enfants, ça va être beaucoup plus difficile parce que je pense que c'est pas vrai qu'il n'y a plus de bourgeoisie, mais il y en a moins et elle est beaucoup plus riche. Elle a les moyens de se soustraire à notre vue. Et là, je parle pas de
l'aristocratie, peut-être.
Je parle pas de l'hyper-bourgeoisie à coups de milliards, là.
Ouais.
Mais tu as des gens Bon, je travaille dans le domaine des retraites. Tu as des gestionnaires qui font 300, 400, 500 000 par année. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a plusieurs. Et ce n'est pas le seul milieu. Tu as des avocats qui gagnent très mal leur vie parce qu'ils sont le sous-fifre d'un bureau pendant toute leur vie quasiment, mais tu as des avocats qui font 1 million par année. Alors, partout, il y en a comme ça, des gens. Alors, je pense pas que ça disparaît. Je pense qu'elle se raréfie. C'est juste le petit coussin qui reste entre la classe moyenne dont tu parlais, là, qui est de moins en moins moyenne, puis qui est de plus en plus moyenne vers le bas. Puis qui se défend d'autant plus âprement sur ses réactions parce qu'ils ont peur de tomber encore plus bas, puis là, d'être carrément au niveau des pauvres. Alors, c'est une espèce de dynamique de conflit entre les classes, moi, je trouve qu'il est en train de s'amplifier à cause de ça.
Même des conflits à l'intérieur même des classes. Il y a une étude qui a montré que les gens les plus pauvres dans la société votent contre leur propre intérêt en général parce que tu veux jamais être le dernier, tu veux jamais être le pauvre, même si tu es toujours le pauvre. Alors, tu te dis, ben c'est pas moi et j'ai toujours l'opportunité de gagner, donc d'aller un peu plus loin.
Il y a un très bon livre qui a été fait là-dessus il y a longtemps. Ça s'appelle « Pourquoi les pauvres votent à droite?
Ouais. »
Et ça, c'est et dans ça, tu vois, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ce que tu vois, c'est comment ça a été fabriqué, cette idéologie-là, dans un État particulier aux États-Unis. Et ensuite, ça a été... Et donc, cette idéologie-là de dire « si on est pauvre, c'est de notre faute, c'est pas parce qu'on nous exploite, c'est pas parce que… » Ça a été vraiment fabriqué et martelé pendant des années et des années par des gens qui subventionnaient ça à coups de millions.
On a une question. La pauvreté subventionnée. Claude?
La question que je me pose face à vos deux définitions de la bourgeoisie, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui, parce que je me rappelle avoir vécu au Saguenay où les gens faisaient des salaires vraiment faramineux là, avec le secondaire 5, quand les unes sont tombées, là, ça fait de la merde. Qu'est-ce qui aujourd'hui constitue la bourgeoisie? Puis la classe moyenne, y a-t-il encore une différence? Est-ce que les études, le niveau de connaissance qui joue un rôle, ou c'est juste une question de cachet?
Moi, je te dirais que ce qui nous caractérise au Québec, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu de bourgeoisie.
Pas historiquement, non.
On avait une petite bourgeoisie dont le fondement était culturel, mais qui ne possédait pas grand-chose, parce que ce qui était possédé. La vraie bourgeoisie au Québec était anglophone et souvent à Toronto. Donc, on s'est habitué à considérer comme des bourgeois, des espèces de pauvres de luxe qui avaient la chance, parce qu'ils avaient du capital culturel, de vivre un peu mieux que les autres. Puis là, on a fait des conflits de classe entre les pauvres qui n'avaient pas de chance, encore moins de chance, puis les pauvres de luxe. Puis on interprétait des schémas, à travers des schémas marxistes, des choses en les appliquant tout croche, finalement. Ça ne veut pas dire que les schémas sont pas bons et qu'ils n'ont pas une valeur explicative, mais il faut les appliquer un petit peu plus rigoureusement, je pense. Une bourgeoisie qui n'est pas économique, tu te demandes c'est quoi?
Mais